Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Sonne à la porte. Une femme en blouse blanche, l'air revêche de taille moyenne, lui a ouvert. Mince, cheveux chignon gris. Vous désirez? J'aimerais parler aux occupants de cette maison pour leur demander des renseignements. Quel sujet? Sur l'ancien propriétaire. Il est mort. Mais pourrais-je voir le nouveau propriétaire? Une voix crie. Faites-le entrer! Il entre. L'intérieur est lugubre, sale, bol disparate, sans jasse. Je suis l'infirmière qui va ouvrir une porte. Entrez. Il entre. C'est une chambre. Un vieil homme est allongé dans son lit. Maigre, cheveux gris. Qu'est-ce que vous désirez savoir? Nicolas s'approche. Et lui dit. Avoir des renseignements sur l'ancien propriétaire. Un homme étrange. Il vivait seul. Il recevait beaucoup. Voilà. Avait-il de la famille? Non, pas que je sache, peut-être, son nom. La fermière est entrée d'un coup. C'est l'heure de la piqûre. Son nom, monsieur. Laissez-le se reposer. Elle prend sur la table une boîte, avec dedans le produit. Avec tout ce qu'il faut et la seringue. Elle prépare la piqûre et le pique dans le bras. Après la piqûre, l'homme sent inconscient. Pouvez-vous me dire son nom, monsieur? Ah oui. il faut bien sûr. J'aime les confitures. Sec. Partez, monsieur. Laissez-le se reposer.
Elle le pousse à la sortie.
Ne revenez plus. Il est malade. C'est à cause de ses soucis. Il y a ses soucis comme ça. Ne revenez plus, moi, entendez. Avant que la porte ne se referme sur lui, il voit qu'elle a sous sa blouse une robe noire. Il se souvient du château d'Oulin. Il se dit, trop de coïncidence. Il va voir le château qui est abandonné. Sous le mur. Le parc est en friche et en broussailles. Il va vers le château, fait le tour et voit une fenêtre dont les volets restent ouverts. Il prend une pierre et brise la vitre. Pour ouvrir la fenêtre et entrer à l'intérieur du château. Tout semble délabré, meubles sous ou cassés. Poussière, toile d'araignée, moisissure. Mais malgré tout, c'est une belle demeure. Malgré que les pièces ont été transformées en dortoir, cantine et classe, c'est encore une belle allure.
Il visite, regarde, tous les placards, commodes, armoires, tiroirs. Et voir dans un placard, pendu sur un cintre, une robe noire. Encore et toujours une robe noire. Elle a l'air propre, neuve. Que fait-elle ici? Qui l'a mise? Et pourquoi le noir? Il décide de fouiller le château un peu plus en profondeur. Ouvre les meubles. Les placards.
Il ne trouve dans les placards que de vieux papiers, des factures, testaments, oui, testaments. Après des heures et des heures de fouilles, il ne sait comment faire. Il se dit, j'aimerais rester des heures à attendre pour voir si cette personne ne vient pas, la dame en noir. Et il continue à chercher. Il trouve des escaliers qui mènent à la cave. On ne sait jamais. Se sert de son briquet pour éclairer et descend. Il y a en bas des portes de cave en bois. Voir l'intérieur des caves, grâce au plancher mal joint, qui sont pleines de valises molles. Une cave à un lit en fer. Tout semble abandonné. Il y a des toiles d'araignée partout, de la poussière.
Il réussit en poussant très fort, tu vois la porte de la cave où il y a le lit en fer. Il rentre. et en plus du lit, une table à bois, étant plutôt aménagée en cellule, une chaise et une petite armoire. Sur la table, il y a un livre. Un livre à couverture de toile noire. Sur la couverture, il y a un titre. Les 12 soleils, l'orchidée noire. Et en dessous, des épées croisées en forme de croix. Il ouvre le livre. Il y a une liste de noms écrits à la plume, nom de personnes et de lieux. Nicolas décide de prendre le livre. Avant de partir, il regarde la pièce, soulève la couverture du lit et voit une énorme tache rouge sur le matelas. Tout à coup, il s'en rend touche, il se retourne et voit une tête squelettique. D'un geste, il se dégage et se sauve en courant. Il est pris d'une peur panique. Il réussit à sortir de la corde et quitte le château. Sans s'en rendre compte, il a gardé le livre. Quelques temps plus tard, il est chez ses parents. Dans sa chambre, il s'est déshabillé, nettoyé, pris des vêtements neufs, puis s'assoit à son bureau pour mieux voir le livre. Il lit le livre, des noms, des listes des lieux dits, rien, aucun nom qu'il connaisse, un nombre de gens, d'hommes, de femmes, qui sont-ils? Il y a des chiffres à côté des noms. Tournant les pages, il trouve une lettre jaunie, l'ouvre et la lit. Elle est écrite dans l'encre bleue. Il est écrit que celui qui vit, qui vient de naître, est dès lors, qu'il faudra toujours le surveiller, tout au long de sa vie. Puis des phrases sans fin, incompréhensives. Le jour est beau, mais le noir est là. Une fleur blanche est plus près du noir. L'ange est perdu, retrouvé. 16h58. Violet, rouge, c'est le jour. Tête coupée. Poignard dans la gorge, baignoire, plein de sang, poitrine en sang, puis le noir. Je dirais, malgré la belle écriture, qui est la même que celle du carnet, que la personne n'est pas normale, une folle, qui écrit ses délires de crimes, de sang. Ça parle de tête tranchée, de coups de couteau, de cornues ensanglantées sur des lits, de mains coupées. Au bout d'un moment, Nicolas soupire et se dit « Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien de découvrir l'énigme de cette histoire. Rien, bien au contraire, ça la trouble. Et ce château, cette croix, toutes ces robes noires, et cet homme qui était dans la cave, Nicolas se dit « On dirait un mauvais roman du début du siècle. Il referme le cahier ou le livre. Une feuille tombe à terre. Il la ramasse. Un vieux papier où est écrit le nom Nicède, écrit en gros. Ce nom lui fait mal. Il ne sait pas pourquoi. Au-dessus, il y a le nom de son père avec un croquis de l'usine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Décide de cacher le papier ou le cahier ou le livre.
Le soir, lorsqu'il est dans sa chambre avec Guillaume, il lui dit de le cacher dans ses affaires. Puis, va frapper à la porte du bureau de son père.
Entrez.
Père, je vais vous poser des questions.
Je t'écoute.
Eh bien, j'aimerais savoir si votre famille a un secret et si vous savez qui est la femme en noir.
Le père sourit lui dit, notre famille n'a aucun secret.
Et la dame en noir?
Quelle femme en noir?
Celle qui nous veut du mal, qui est-ce?
Personne. C'est pas dans nos relations que viennent ces choses-là. Mais de tes fréquentations de cinéma, des gens veulent te faire une farce. Ou un jaloux de ton succès qui veut te faire peur ou mal, mais pas dans notre famille.
Nicolas lui montre le papier où est marqué son nom.
Où as-tu eu ça?
Alors il lui raconte tout, le château, etc.
Le père furieux lui dit, tu n'aurais pas dû aller là-bas, il n'y a rien à voir.
Nicolas lui dit, tu ferais mieux de tout me raconter.
Il n'y a rien à te dire, parce que je n'ai rien fait.
Alors dis-moi, qui a fait?
Personne.
Père, vous voulez rien me dire et pourtant vous savez que la famille est en danger.
C'est toi qui le dis.
Qu'est-ce que veut dire ce mot?
Une blague.
Une personne qui a écrit une blague pour moi dans une cave transformée en cellule?
Le père prend le papier de la main de Nicolas et lui dit,
tu vois, bien, il n'y a rien sur ce papier.
Et doucement, sort son briquet et s'apprête à le brûler.
Nicolas, d'un coup de poignet qui tient le papier, fait lâcher son père et le prend.
S'il n'y a rien sur ce papier, vous n'avez pas à le brûler.
Et va vers la sortie de la pièce. Le père lui dit,
tu ne diras rien à ta mère.
Nicolas hausse ses épaules et lui dit,
il n'y a rien à dire. Et quitte la pièce.
Il va retrouver Guillaume dans sa chambre. Et lui dit, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai décidé c'est de retourner à Paris et de ne plus m'occuper de cette histoire sans queue ni tête. Durant le dîner, il dit à sa mère, « Sommes obligés de partir. J'ai reçu un appel téléphonique de Paris. Il faut que l'on rentre de suite. Un film à préparer. » »«
Quel dommage !»
Une fois à Paris, il met le cahier dans un coffre de la banque et dit à Guillaume, « C'est une histoire de fou. Ça ne pourrait même pas servir à un film Z. » Et la vie reprend. Nicolas, enfermé chez lui, cherche à écrire un scénario. Guillaume joue quelques petits rôles dans des films pour se faire un peu d'argent. Lorsqu'ils se retrouvent le soir après leur travail, ils sortent pour aller voir des pièces, au concert ou au cinéma. Ils mènent une vie de couple toute simple, comme tout le monde. Le repas, le linge, le ménage, les courses, factures et l'amour. Le temps passe. Après avoir bien réfléchi, Nicolas pense faire un petit film sur Napoléon III, un monologue de l'empereur disant en racontant sa vie en plan fixe. Nicolas aime beaucoup l'empereur parce qu'il pense qu'il c'est un brave homme. Il veut le montrer fatigué, malade, en exil. Seul, le soir, dans son bureau,
à se remémorer sa vie. Il dit qu'on l'a dénigré, qu'on a fait de lui un dictateur sanguinaire, alors qu'en réalité, il voulait être l'empereur des ouvriers. Il a eu une enfance triste, solitaire, sans enfant de son âge près de lui, et tout le temps en exil. Avec sa mère, il changeait constamment d'endroit, ce qui fait qu'il n'a pas pu se faire de camarades ni avoir une sexualité normale. Adolescent, c'était la même chose, et comme il était assez timide, et en changeant d'endroit, sa vie sentimentale et sexuelle n'avait pas dû être très importante. Il lisait beaucoup et s'intéressait à la vie des ouvriers et aux nouvelles technologies. Jeune homme, il est parti en Italie se battre contre les Autrichiens. Il a failli être prisonnier avec ses cousins. Retourne en France, prisonnier. En prison, il lisait beaucoup et écrivait, avait des rapports amicaux avec les anarchistes et autres. Ses écrits étaient appréciés par leur justesse. Il traitait de problèmes sociaux et de nouvelles techniques. Au cours d'un de ses exils, il est allé en Amérique. Il y a vécu quelques jours, mais il a eu le temps de voir le danger pour l'Europe, le danger économique. Élu député puis président, malheureusement avec une mauvaise constitution, il ne peut gouverner et ses ministres se moquent de lui. Vers la fin de son mandat, il fait le coup d'État. Il ne se passe rien dans la nuit ni le matin, les gens sont calmes. Mais des républicains qui lui en veulent à mort créent des troubles et malheureusement c'est la terreur. Il ne voulait pas de ça, mais il a suffi d'une émeute provoquée par les républicains puis reprise par le peuple échauffé par eux. Les républicains ont provoqué les émeutes avec leurs hommes. Le président pendant ce temps est resté enfermé à l'Élysée. Puis la chose s'est arrêtée avec des décrets de loi et des enfermements. Et des exils pour certains. Puis l'entourage du président veut qu'il devienne empereur. Lui ne voulait pas, on le force à dire un discours à Lyon pour qu'il se nomme empereur. Il a toujours cherché à aider les ouvriers avec la création des prud'hommes, les droits de grève, logements sociaux qu'il voulait que les syndicats ont refusé, diminution des heures de travail, retraite à 60 ans. Il aurait aimé que les usines se construisent à la campagne, comme cela, lorsqu'une entreprise serait au chômage, les ouvriers pourraient travailler leurs terres et éviter les migrations vers les villes et les logements lépreux, la maladie, l'alcoolisme, etc. Il a modernisé la France avec les trains, la fabrication de locomotives, industrie moderne, rebâti les villes en les modernisant, comme Paris, Lyon, etc. Pour ce qui était des guerres, il était contre, mais on l'a lui imposé, même celle du Mexique. Lorsqu'il y a eu la guerre de sécession en Amérique, il s'est dit que pour éviter que l'Amérique devienne très forte, il faut qu'elle se divise et que le Sud prenne son indépendance. Et comme l'Amérique c'est loin, il voulait mieux qu'un pays près de chez eux les aide. Le Mexique devait une dette considérable à l'Europe. Le pays était dans l'anarchie la plus complète, impossible de se trouver un chef. Alors, les Européens décident de lui en donner un, qui mette de l'ordre au pays et rembourse la dette. On cherche et trouve le frère de l'empereur d'Autriche, l'empereur bien heureux de se débarrasser de son frère qui pourrait devenir encombrant. La France est d'accord, donne une aide militaire. Le jeune Maximilien va là-bas avec plein de bonnes intentions. Ils veulent moderniser le pays, l'alphabétiser, etc. Il débarque là-bas, surpris par la pauvreté du pays, des villes qui ne sont que des bourgades et des gens qui ne les accueillent pas. Il y a même des guérilleros qui se battent contre Maximilien et créent la terreur. Et ce groupe d'hommes a conclu avec les Américains une aide en échange d'une partie du territoire. Mais très vite, Maximilien s'aperçoit que le pays est ingouvernable. Une fois que les troupes avec qui il était venu sont parties, c'est le début de sa fin. Il est seul dans un pays hostile. On lui dit de retourner en Europe. Il s'obstine et en mourra, d'abord prisonnier, puis fusillé. Sa femme, qui avait été chercher de l'aide en Europe, deviendra folle. La guerre de sécession a été perdue par le Sud. L'Amérique deviendra la plus grande puissance du monde. Durant l'Empire, les libertés sont respectées. Le carnet des ouvriers, ce fameux carnet où était marqué si l'ouvrier avait travaillé, où il avait travaillé, ce qu'il avait fait et pourquoi il avait quitté son emploi. Le carnet devait être montré pour l'embauche. Il est supprimé grâce à l'empereur. Il y a aussi les prud'hommes, la liberté syndicale, l'école supérieure normale ouverte aux femmes. Eugénie a défendu l'auteur et le livre de Madame Bovary et défend les femmes pour leur liberté. Napoléon III voulait l'école pour tous et gratuite. Malheureusement, il n'a pas pu le faire complètement car les maires des villages et des petites villes ne voulaient pas. Il disait que les enfants de paysans étaient indispensables pour les travaux de la ferme. Mais il avait bien avancé dans ce domaine et Jules Ferry n'a fait que continuer sa politique. Pour ce qui était de l'Algérie, il disait que les Algériens avaient leur propre culture et qu'ils ne pouvaient pas se fondre dans la France. C'est lui qui a fait moderniser l'Algérie et faire en sorte à ce que les Algériens soient bien traités. Malheureusement, tout ce qu'il a fait a été supprimé, transformé par la Troisième République. Un imbécile a transformé l'Algérie en département français. Pour ce qui était de sa vie privée, petit bourgeois, il n'aimait pas les cérémonies ni les grands spectacles. Sa vie sentimentale, mariée dans le tard avec Eugénie, qui était sérieuse et bigote. Comme il n'avait pas eu beaucoup d'aventures galantes durant sa jeunesse, cela lui manquait, alors il s'est rattrapé, et s'est rattrapé avec d'autres femmes que sa femme, parce que sa femme ne pouvait pas lui donner certaines choses. Il a eu un fils qu'il adorait. Les guerres de 70, il n'a pas voulu. C'était les Allemands qui la voulaient pour renforcer leur union. Napoléon ne la voulait pas parce qu'il n'aimait pas la guerre. Et puis, la France n'était pas prête. L'armée avait besoin d'être modernisée et le Parlement avait refusé obstinément les augmentations de son budget. Les Prussiens choisissent n'importe quel prétexte pour se battre contre la France. La dispute a commencé pour une histoire de prétendant au trône d'Espagne, un roi à choisir. Les États d'Europe devaient en choisir un. La France avait le sien. Les Russes et les Prussiens avaient décidé de mettre sur le trône d'Espagne le leur sans en parler à la France. La France, outragée, demande explication. On envoie le Premier ministre parlementer. La presse, ou plutôt les journalistes, la prennent et disent que la France a été outrageusement humiliée et qu'il faut exiger des excuses. On demande la guerre. De toutes parts, l'on crie à Berlin. L'empereur n'ose pas et ne veut pas, mais le peuple. Il croit que c'est le peuple en entier qui la veut. Il n'ose pas On discute longuement avec sa femme et son ministre. On lui dit que puisque le peuple le veut, il le faut, car le peuple se sent humilié. Donc, la mort dans l'homme, il fera la guerre. Sous les applaudissements des condes parisiens, des politiques et des journalistes, il part avec son fils de 14 ans. La régence est donnée à sa femme pour la première fois. La guerre devient très vite une véritable boucherie. L'empereur malade, très malade, donne des ordres, demande à Paris de l'aide et donne des ordres à sa femme. Sa femme, qui a le pouvoir, en profite pour se venger, car elle était jalouse et n'oublie plus aux ordres de son mari et le destitue des chefs des armées en envoyant un autre le remplacer. L'empereur, sans pouvoir, au milieu des ruines, avec son fils auprès de lui, qui l'aide à descendre de cheval. Il est seul, abandonné, malade, avec un fils de 14 ans qu'il aime. Ils sont tous deux abandonnés au milieu des blessés, morts, le sang, les cris, les canons, la fumée, les chevaux qui vont dans tous les sens. au milieu de cette guerre qui n'a pas voulu, souffrant, ne servant à rien, car personne ne s'occupe de lui ou n'exécute ses ordres. Il décide de se rendre aux Allemands et d'abdiquer. Les Allemands acceptent l'armistice, mais demandent à l'empereur de rester empereur des Français. Les Allemands sont les seuls à demander à Napoléon III de rester empereur. Ils veulent traiter avec lui et le préfèrent à quiconque à la tête du pays. Napoléon sait que les Français ne le veulent plus. Il abdique. Part pour l'Angleterre, où il retrouve sa femme et son fils. Les Anglais et la reine les aident. Dans son exil, il continue à écrire et faire des projets, ou plutôt des idées, parce que pour lui, la politique, c'est fini. Il imagine une retraite pour les ouvriers à 60 ans, etc. En Angleterre, la vie est paisible. Puis, son mal empire. On l'opère trop tard. Il meurt d'un gros calcul dans la vessie, mal soigné. Dès l'annonce de sa mort, des communards viennent chanter la Marseillaise devant sa demeure. On le regrette. Pasteur, même Victor Hugo. Voilà, le scénario est fini. Petit film qui va se faire avec un petit budget. Sa maison de production suffira. Un acteur, plan fixe, assis dans au coin du feu, qui parle. Et pour sa mort, voix off à la fin. Acteur habillé en Napoléon en civil, blanchi, vieilli, un côté vieux dieu en disgrâce, noble sous sa fin. Le film dure une heure, le public l'a bien reçu, un Oscar pour l'acteur. Nicolas revient d'une soirée. Il est 4 heures. En arrivant sur son palier, il voit s'ouvrir d'un coup la porte du placard technique. Et un jeune homme blond habillé de noir. Il est penché sur une canette de bière avec une seringue. Il a les mains toutes blanches, ses vêtements et le sol aussi. Le jeune dit : Il est quelle heure ? 4 heures. Je prends un médicament. Nicolas lui dit, faites vite parce que l'on risque de vous voir. Oui, je sais, je me suis déjà fait prendre une fois. La police est venue. C'est pas drôle de se faire prendre lorsqu'on prend un médicament. Faites vite. Ça vient. Il faut que le produit devienne vert. J'y arrive pas. Il semble pas savoir préparer sa piqûre. Le produit ressemble à du plâtre. Il y en a partout, même sur le bout du nez. Il y a aussi plein de bouts de coton à terre. Que là, le regarde bien, il a l'air plutôt paumé qu'autre chose. Zut, et mon aiguille ? Cherche à terre, la trouve, elle est pleine de poussière. Que là lui dit, il va falloir la laver. Il prend une bouteille d'eau et renverse de l'eau sur l'aiguille. Que là se dit, il ferait mieux d'apprendre à se préparer son truc. Quelle hygiène ! Il dit tout haut. En fâchant que son truc, le jeune lui dit, « Ah, toi aussi ?»« Non, pas vraiment. Mais mon truc, à moi, c'est pas la même chose que le tien. » Il voit que le jeune trafique avec sa seringue. Il a peur Il l'a posée sur une canette de bière. Cola lui demande. Vous n'y arrivez pas? Le jeune répond. C'est pas facile, Cola lui dit. Quel truc? Enfin, chacun son truc. Le jeune lui dit. Toi aussi? Pas vraiment. Moi, mon truc, c'est pas la même chose que toi. Au lieu de faire ça, pour te sentir mieux, tu ferais mieux, c'est de te masturber. C'est plus facile, ça coûte rien, c'est pas dangereux ni interdit. Mais on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, sans chercher quoi que ce soit. Je le regarde surpris et lui dis, tu crois? Oui. Ça apporte autant de plaisir, tu sais? Essaye. Que je n'hésite, Nicolas lui dit. Si tu veux, je peux t'aider. Je te branle, si tu veux. Je n'hésite.
Se relève.
Ouvre sa braguette. Et sort son phallus. Tout mou, mais avec une belle forme. Pas trop longue et fine. Cola s'approche. Lui touche avec son doigt. Tout doucement. Le long du phallus et lui dit « Il est beau, hein ?» Le jeune hausse ses épaules. Cola, petit à petit, lui touche plus fortement, lui caresse le gland. La verge se raidit et prend petit à petit la position 69. Nicolas lui sourit. Le jeune ne dit rien. Nicolas fait le geste de le masturber. Le jeune ferme les yeux. Nicolas lui défait son pantalon, lui descend, met la main dans le slip tout en le masturbant. Le jeune ne bouge pas, il sent bien. Nicolas lui touche le bas-ventre, il sent quelques poils doux. Il prend à la main les coudes qui sont fermes. Elles sont lisses, sans poils et de belle forme, pas trop grosses. Le jeune frémit un peu et serre les jambes. Nicolas va des couilles aux fesses en continuant à le masturber. Nicolas lui demande « Si tu avais un préservatif, je t'aurais sucé en te caressant les fesses et les couilles. » Tout en même temps, le jeune lui demande « Suce-moi. Non, je ne peux pas. Pourquoi? À cause des maladies. Mais je n'ai rien. » Tu peux pas le savoir. Si, j'ai passé à la visite. Je ne veux rien dire. Tu peux la voir après. Il serre de plus en plus le sexe du jeune entre ses mains. Je lui dis, c'est bon. Tu me diras quand ça viendra. Oui, vas-y, c'est bon. Nicolas continue et voit le jeune de plus en plus excité. Fascinant. Les jambes, ça vient, attends, attends. Nicolas se retire un peu, le jeune jouit en faisant tomber le sperme à terre, pendant que le jeune tremble comme une feuille. Une fois que c'est fini, il est essoufflé et rouge. Il dit, j'ai froid. Nicolas lui dit, c'est rien, c'est normal. Il souffle un peu. Nicolas continue à le caresser. Le jeune plaqué contre lui. Le sexe est ramolli. Le jeune souffle et se détache de Nicolas. Et se rhabille. Une fois que c'est fait, Nicolas lui demande « Comment tu te sens ?»«
Ça va. Tu veux te piquer ?»«
Non. » Pas pour le moment.
Merci.
Et il s'en va, en laissant à terre tout son foutoir.
Et Nicolas entre ses lits.
Guillaume est absent. Il est chez une de ses tantes. Nicolas a un peu honte d'avoir trompé Guillaume, mais il n'y peut rien. C'est purement physique, pas de sentiment, un besoin irrésistible, mais rien de plus, rien de profond. C'est Guillaume qu'il aime. Les autres, ce n'est rien. Juste passer un moment, ensemble, agréable, comme ça. Comme avec un ami, en buvant un verre ensemble, ou fumant une cigarette, comme ça. Les jours passent. Nicolas cherche toujours un projet de film pour Guillaume. Guillaume est toujours chez sa tante.
Bonsoir, on sonne à la porte. Nicolas va ouvrir. C'est le jeu de la dernière fois.
Salut, salut. Nicolas lui demande, que veux-tu? Tu peux pas me dépanner comme l'autre soir? Tu peux pas faire ça tout seul?
Non, j'aime mieux lorsque c'est toi.
Je ne peux pas. Tu peux pas me laisser comme ça? Tu ne peux pas, non? Nicolas lui dit, j'ai ma vie, j'ai quelqu'un, trouve-toi une autre personne. J'ai personne, et puis tu fais bien. Nicolas hausse ses épaules, le jeune lui dit, tu peux pas me laisser comme ça? Il voit son sexe en érection. C'est tellement fort que ça me fait mal. Et puis c'est de ta faute, c'est toi qui m'as fait goûter et maintenant il m'en faut. Autrement je serais obligé de me piquer. Nicolas soupire et lui dit, allez, entre.
Le jeune entre.
Viens.
Et Nicolas le met dans sa chambre.
Viens. Oh.
C'est bien chez toi, c'est grand et tout.
Faut dans la chambre, ils restent tous les deux au milieu de la pièce. Nicolas sourit, embrasse sur la joue et commence à le déshabiller.
Le jeune lui dit, j'ai pris des préservatifs.
Et en sortant de sa poche de pantalon, Nicolas lui dit, c'est bien, faudra te laver aussi.
Une fois nu, Nicolas l'a amené à la salle de bain.
2 heures plus tard, le jeune est parti. Nicolas lui a dit de ne plus revenir parce que son ami allait être là. Le jeune n'a rien dit. Guillaume est revenu. Le jeune n'a plus sonné chez Nicolas.
De temps en temps, Nicolas le voit dans la rue.
Ils font un petit sourire. Le jeune lui dit, c'était bien. Nicolas lui dit, oui, tu te drogues? Le jeune lui dit, un peu, je masturbe. Et puis, des fois, si je trouve une personne qui veut bien m'aider, Nicolas lui dit, arrête de te droguer. J'arrive presque grâce à toi. Tu manques, tu sais. Et toi, Nicolas lui dit, moi aussi, mais chut. Ton ami est de retour? Oui, et je l'aime. Ne veux pas le faire souffrir. Toi aussi, tu trouveras. Peut-être une jeune fille, le jeune lui demande. C'est mieux? Nicolas lui dit, on vit mieux avec les autres, si c'est une fille. Le jeune lui dit, je comprends. Alors, plus jamais nous deux. Je crois que c'est plus jamais, mais ça nous fait un bon souvenir. Le jeune lui dit, oui, il n'y a que toi qui fais aussi bien. Nicolas sourit et lui dit, c'est le coup de main. Le jeune lui dit, et le coup de bouche.
Allez, il faut qu'on arrête.
Tu me fais bander, salut. Et il quitte Nicolas. souvent, ils se voient, se font un petit signe. Mais lorsque Nicolas est avec quelqu'un, il fait celui qui ne le reconnaît pas. Les jours passent. Un jour, Nicolas reçoit une lettre. Qui lui dit qu'il doit se laisser guider par ses instincts être naturels. Que la loi, la société, la religion ou autres ne doivent pas faire obstacle à ses besoins, désirs. Qu'il fait partie des élus, qu'il doit aller au-delà du bien, du mal. Que pour lui, le bien, le mal ne doit rien dire. Que c'est une invention humaine, stupide, qui empêche l'homme d'être lui-même, c'est-à-dire naturel. L'empêche d'être comme on l'a créé. Il a été muselé par la société, il doit redevenir ce qu'il doit être et vivre ses désirs sans les entraver. Nous pouvons vous aider à assumer vos désirs, à les extérioriser. Nous sommes les écologistes de l'être humain pour qu'il reste en harmonie naturelle, sans la pollution morale, sociale, religieuse ou politique. Nous avons des lieux où tout est permis. Nous pouvons vous apporter, vous offrir tout ce que vous désirez. Il vous suffit d'écouter votre nature sans restriction et dire ce qu'elle a envie ou besoin. N'ayez pas peur, tout est permis. Nous ne choquons de rien, nous sommes comme vous. Dites-nous tout ce que vous aimez et nous vous aiderons à être vous-même. Nous sommes nombreux, des gens de toutes sortes et devenons quasiment intouchables. Car nous avons déjà très influents chez nous. Vous êtes un de nos élus. À votre naissance, vous avez été offert. Comme prévu, nous venons vous chercher. Votre rôle premier nous est primordial. Vous êtes l'élu de celui que l'on doit donner et qui appartenait à SLM. On vous veut parmi nous. Venez, où l'on peut vous mènera à nous. Vous êtes déjà allé à nous, les 12 SLN. Nicolas, après avoir lu la lettre, pense que c'est une plaisanterie. Il a fait lire à Guillaume qui lui dit « Peut-être pas, il y a des tas de détraqués et la femme en noir, les 12 SLN. C'est peut-être les 12 soleils, l'orchidée noire. Tu devrais aller à la police avec la lettre. » Nicolas lui dit, si j'y vais, ils vont faire une enquête sur le mot. Nous qui sommes homo, comme en ce moment, être homo, ce n'est pas bien vu, avec toutes ces histoires de pédophilie, les gens ne voient pas la différence avec nous. Ils ont compté les maladies sexuelles. Cette lettre risque de plus nous nuire qu'autre chose. Mais tu as raison. C'est peut-être la femme en noir qui doit faire partie d'un groupe de gens à moitié cinglés. Guillaume lui dit, est dangereux. Lis bien, pour eux il n'y a pas de morale, tout est permis, même le crime. Nicolas lui dit, tu vas un petit peu loin, pense à tout ce qu'a fait la dame en noir. Elle a bien plus d'une fois failli nous tuer, ou nous, ou un membre de ta famille, comme ce pauvre Denis. Nicolas lui dit, oui tu as raison, mais était vraiment là-dedans? Guillaume hausse ses épaules et lui répond, on ne sait jamais. Alors fais attention. Tu as raison. soir, Nicolas, en se dirigeant chez lui, en passant devant une porte d'allée, il se sent pris par la manche, se retourne et voit un clochard, maigre, mal rangé, cheveux noirs, chapeau et manteau gris sale. Le clochard du monde.
C'est toi, Nicolas?
Oui.
Tu es l'élu, je t'ai reconnu. On a besoin de toi. Lui t'appelle. Il faut que tu viennes le plus vite possible.
Mais je ne comprends pas.
Mais si. Je sais que tu as reçu la lettre. Il faut que tu y ailles.
Mais où?
Au centre.
Quel centre? Pourquoi faire?
Le centre. Tu feras ce qu'on te dira.
Vous êtes de la dame en noir?
L'homme ne répond pas et sort un cran d'arrêt.
Nicolas fait un geste brusque pour se dégager.
L'homme le laisse partir. Nicolas se sauve en courant. L'homme lui crie.
Tu as une dette envers nous. On se reverra.
Nicolas, une fois chez lui, se ferme à clé.
Il se dit que cette histoire a l'air sérieuse. Mais il ne peut compter que sur lui. En préparant le dîner, il se demande ce que c'est que cette histoire. Il est l'élu dès sa naissance. Pourquoi a-t-on besoin de lui? Est-ce pour un sacrifice? Est-ce la dame en noir qui est là-dessus? Est-ce pour lui faire peur? Mais pourquoi veut-on lui faire peur? Et qu'est-ce que ses parents savent quelque chose? Que s'est-il passé au moment de sa naissance? Qui était présent? La dame en noir? Et Chanteau? Les noms sur le carnet? Ont-ils des rapports sous ces noms? Voilà des questions différentes, des questions difficiles à répondre.
Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 43e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.